Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, Media Dakar, Trésor N'Djamena, bienvenue à notre journal. Ouganda, explosion d'un camion-citerne dimanche soir dans l'ouest du pays. Bilan au moins 19 morts selon des sources policières. 10 personnes ont péri instantanément lorsque le conducteur a perdu le contrôle du camion et a heurté 3 autres véhicules, provoquant plusieurs explosions et l'incendie de 25 échoppes. Hier soir, a déclaré ce lundi à l'AFP le porte-parole de la police régionale, Martial Toumou Sime. Parmi les blessés hospitalisés, 9 ont succombé à leurs blessures, a souligné le porte-parole. L'accident s'est produit dans un centre commercial sur la route reliant Kampala à Kasese, localité proche de la frontière avec la République démocratique du Congo. Au Tchad, l'état d'urgence est en vigueur depuis hier dans les provinces de Sila et de Ouadaï dans l'est du pays. Mesure prise par le président Idriss Déby Itno après des affrontements intercommunautaires meurtriers qui ont fait des dizaines de morts ce mois-ci dans les régions concernées. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
L'état d'urgence est déclaré pour 3 mois dans les provinces du Sila et du Ouadaï, à la frontière entre le Tchad et le Soudan. Dès maintenant, nous allons déployer des forces militaires qui vont assurer la sécurité de la population dans la zone, a assuré le président Déby en déplacement dans le Sila. Il a également ordonné le désarmement de tous les civils de la zone qui ont des armes entre les mains. Des affrontements entre cultivateurs et éleveurs y ont fait plus de 50 morts depuis le 9 août, selon la présidence qui ne dresse pas de bilan plus précis. Depuis le début de l'année, ces violences intercommunautaires se sont multipliées et ont gagné d'autres régions du Tchad. Le président Déby a plus particulièrement incriminé l'afflux d'armes venues des pays frontaliers du Tchad en proie à de graves conflits comme la Libye, la Centrafrique ou le Soudan. Ces situations conflictuelles entre éleveurs et agriculteurs se retrouvent aussi dans plusieurs autres pays africains, notamment au Nigeria ou en Centrafrique.
Au Soudan voisin, début du procès pour corruption du président déchu Omar al-Béchir qui a dirigé le pays pendant 3 décennies. L'ex-chef de l'État, déposé par l'armée le 11 avril en réponse à des manifestations massives, est arrivé ce lundi au tribunal de Khartoum, escorté par un imposant convoi militaire. Son procès devait s'ouvrir samedi, jour de la signature de l'accord de transition historique entre le Conseil militaire au pouvoir depuis avril et la contestation, mais il avait été reporté sine die. Au tribunal, le brigadier de police Ahmed Ali a révélé aujourd'hui qu'Omar al-Béchir avait reçu 90 millions de dollars en espèces de l'Arabie saoudite. Selon l'officier, l'ancien président lui a dit que l'argent avait été livré par des émissaires du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Politique au Soudan maintenant, le pays s'est engagé concrètement dimanche dans sa phase de transition vers un pouvoir civil qu'il espère apaiser avec la désignation attendue des membres du Conseil souverain au lendemain de l'accord historique signé par les dirigeants militaires et la contestation. Le point avec Thomas Kamilindi.
Samedi, des foules en liesse ont rempli les rues de Khartoum après la signature de l'accord. Ce compromis entre les généraux au pouvoir et les meneurs de la contestation prévoit une transition de 39 mois qui doit être menée par un conseil souverain composé de 11 membres, dont 6 civils et 5 militaires. La cérémonie de signature a eu lieu à Khartoum en présence de nombreux dignitaires étrangers, le plus grand événement à être organisé depuis des années dans la capitale soudanaise. Plusieurs pays ont salué la signature de l'accord, considéré comme le point de départ d'un nouveau Soudan après les 30 ans de pouvoir d'Omar el-Béchir. Sur Twitter, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a promis que Washington soutiendrait l'établissement d'un gouvernement qui protège les droits de tous les Soudanais et mène vers des élections libres et équitables. Pour l'analyste soudanais Abdelatif Al-Bouni, le plus grand risque dans l'immédiat pour la transition est la volonté de se venger de certains. Plusieurs étapes précéderont les élections prévues en 2022. Le gouvernement doit, lui, être formé le 28 août avec 20 membres au maximum pour permettre aux nouvelles institutions d'affronter les principaux défis du pays, en priorité la relance d'une économie en crise.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Nigeria, le retour surprise vendredi dernier de Cheikh Ibrahim Alazak Zaki, leader du mouvement chiite du pays, fait craindre regain de tension entre les forces de sécurité et la communauté chiite. Ibrahim El-Zakzaki, qui s'était rendu en Inde pour des soins médicaux, aurait écourté son séjour suite à une incompréhension entre lui et son gouvernement. Gilbert Tamba revient sur les réactions depuis le retour du leader chiite au Nigeria.
Le dirigeant chiite nigérien Ibrahim El-Zakzaki a effectué un retour inattendu dans le pays trois jours après son arrivée en Inde pour y recevoir des soins médicaux. El-Zakzaki aurait refusé les traitements dans un hôpital indien lorsque son équipe médicale préférée, dit-on, a été changée. La réaction d'Ibrahim Gamawa, porte-parole du mouvement islamique au Nigeria.
C'est regrettable de voir un arrangement fait depuis le Nigeria changer après l'arrivée du cher en Inde, où il s'est retrouvé entre les mains de médecins dont certains étaient même hébreux. Ces médecins sont tous des agents israéliens et c'est la raison pour laquelle le cheikh a décidé de revenir au Nigeria.
Au sein de la société civile, on craint une reprise des violentes manifestations des membres du groupe chiite qui ont déjà fait des victimes et des dégâts matériels importants. Awal Moussa Rafsanjani dirige le CISLAC.
Toute cette histoire autour du traitement de Zakzaki et du refus du gouvernement de respecter la décision de la Cour de le libérer fait réellement monter la tension. Ce refus est aussi à l'origine des problèmes entre le gouvernement, Zakzaki et son groupe, ainsi que d'autres Nigériens qui veulent s'assurer du respect de la loi au Nigeria.
Même préoccupation de Deji Adeyinju, du groupe des Nigériens concernés.
La communauté des chiites est victime d'injustice au Nigeria. Plusieurs de ses membres ont été tués, plusieurs ont été enterrés dans des fosses communes. Même le gouvernement l'a reconnu dans l'un de ses rapports. Donc ça ne pose pas de problème que les membres du mouvement islamique au Nigeria, que les chiites protestent dans le pays. Mais ce que nous demandons toujours, c'est qu'ils manifestent pacifiquement. Nous soutenons une stratégie d'action de base non violente.
Le groupe des chiites persiste et dit avoir des moyens pour faire face au dernier développement concernant son fondateur, Ibrahim Gamawa.
Le premier moyen est de retourner devant la justice. Le deuxième, et ce au même moment, est de faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire manifester. Et le troisième est de continuer à négocier avec les pays étrangers et en même temps auprès des sages qui sont sur place ici dans le pays.
En 2016, un tribunal avait ordonné la libération du chef Ibrahim El-Zakzaki, mais les autorités d'Abuja ont refusé. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
En Zimbabwe, l'armée et la police ont été déployées en force ce lundi à Bulawayo, deuxième ville du pays, quelques jours après la répression brutale d'une manifestation semblable à Harare, la capitale. La police zimbabwéenne a interdit la veille la marche prévue par le MDC, le mouvement pour le changement démocratique, en vue de protester contre la détérioration des conditions économiques dans le pays. Le MDC a saisi la justice pour contester cette décision. Crise migratoire pour terminer, le navire humanitaire Ocean Viking n'a pas encore trouvé un port sûr pour débarquer 356 migrants secourus au large de la Libye, et ce, il y a déjà 10 jours dans le cadre des premiers rescapés. En attendant, ces migrants ont été invités à dessiner. De traits de crayon et avec quelques couleurs, ils ont consigné leurs pires cauchemars et leurs meilleurs souvenirs. Eric Manirakiza.
Les dessins accrochés sur le pont de l'Ocean Viking racontent les vies malmenées des migrants. Des coups en Libye, la guerre au Darfour, mais aussi le village familial dans le sud du Soudan, un chanteur pop et le baoba emblématique du Sénégal et des bateaux salvateurs. Haroun Mohamed détaille ces images. Le Darfour en feu qu'il a quitté en 2011 pour gagner Khartoum puis la Libye, les avions qui pilonnent sa maison, le toit en flammes, la famille qui s'enfuit, le croquis d'Adam, 18 ans, qui rêve avec sa haute stature de devenir footballeur professionnel, montre un petit bonhomme accroché au plafond, pieds et poignets liés, tandis que deux hommes le frappent à toute volée devant d'autres prisonniers alignés. Al-Hadin a reproduit une carte de Libye rouge sans barrer des lettres Hell, l'enfer. By Hell, serait-il en faisant le V de la victoire. Ezo préfère se souvenir des belles choses, son village bucolique dans le sud du Soudan, au bord d'un lac où il a appris à nager, non loin des monts Nouba, des pêcheurs, sa grand-mère, la cruche sur la tête, les vaches. Les dessins racontent aussi leur sauvetage et leur arrivée sur le grand bateau rouge. Ils montrent également des mères qui accueillent leurs enfants, des images qui trahissent le mal du pays, la nostalgie de l'enfance et du temps de l'insouciance.
Merci de votre attention.